Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Finalement, qu'est-ce que c'est que Popopop ? Oui, je sais, une émission consacrée à la pop culture, cette culture en perpétuel mouvement et qui partit du fond du cours finit par trouver une résonance dans le grand public, mais surtout, c'est une émission qui vous permet de regarder ailleurs, d'aller dénicher à droite à gauche des pépites dont vous auriez peut-être ignoré l'existence, bousculée comme nous le sommes tous par le flux incessant de production d'images, de mots et de sons. Et puis Popopop, c'est une consolation, une manière, comme le chantait Stéphane Eicher, de déjeuner en paix dans l'avalanche quotidienne de nouvelles relativement enthousiasmantes ou de catastrophes pures et dures. Aujourd'hui est un bon exemple puisque notre invité, Sacha Sperling, est un jeune auteur d'une trentaine d'années et d'un déjà cinquième roman absolument épatant, Le Fils du Pêcheur, dont nous nous sommes dit qu'il serait tout à fait dommage qu'il échappe à vos radars déjà plus sollicités que ceux des aiguilleurs du ciel en période de transhumance estivale. Cette émission aurait pu s'appeler Le Sacha Show, mais le titre était déjà pris. Bon allez, pop, pop, pop. C'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour, c'est Sacha Sperling. Aujourd'hui, je suis l'invité d'Antoine de Gaulle et on va parler d'amour avec des garçons, avec des filles. On va parler littérature, on va parler de la vie et j'espère que ce sera très pop.
Eh bien, voilà un programme. Bonjour Sacha Sperling.
Bonjour Antoine de Cône.
C'est drôle parce que je vous sens tout ému d'être dans ce studio. Vous me dites j'écoute cette émission, ça me fait bizarre d'être là.
Ah bah oui, quand on écoute une émission qu'on l'aime et que tout d'un coup on se retrouve à la faire, il y a toujours un sentiment un peu particulier, il y a toujours une émotion un peu plus forte. Enfin c'est un plaisir quoi.
Bah vous allez voir, j'espère que c'est aussi confortable à faire qu'à écouter. Vous me le direz en fin.
Je vous le dirai à la fin.
Bon, bienvenue en tous les cas dans Pop Pop Pop. D'abord on va jouer carte sur table, Sacha, je vous connais depuis longtemps, depuis un âge où vous n'envisagiez pas encore, je crois, d'écrire des livres.
C'est vrai, oui, ça aurait été inquiétant qu'à l'âge où vous m'avez connu, Antoine, j'ai envisagé d'écrire des livres.
3-4 ans, quoi.
Voilà, 3-4 ans, mais l'envie s'est dessinée quand même relativement tôt. Oui, ouais. Je crois que j'ai jamais vraiment voulu faire autre chose. Mmh. À l'adolescence, c'est devenu assez évident pour moi que c'était comme ça que j'avais envie de vivre et que ça serait une chance d'y arriver. Et je m'y suis tenu à cette ambition.
Et puis à la fin de l'adolescence, c'est-à-dire vers 19 ans, hop, ça c'est parti tout seul avec un premier roman qui a
ah oui, c'est
fait son
fort.
Effet.
C'est oui. Parti fort, beaucoup plus fort que j'aurais pensé, beaucoup plus tôt que ce que j'imaginais aussi.
Bon, on va y revenir. À ça. Je tiens à préciser que même si nous nous connaissons, Sacha, de loin, mais nous nous connaissons, c'est l'écrivain que je reçois donc aujourd'hui, un écrivain qui me bluffe et qui évidemment, ce qui évidemment rend la situation encore plus intéressante quand on s'aperçoit qu'un train peut en cacher un autre, comme ils le disent, à la SNCF. Alors je me souviens de vous, gambadant dans un grand jardin en Normandie, sous des pommiers en fleurs, une vision bucolique et champêtre. Or il se trouve que c'est le décor, 25 ans plus tard, de ce nouveau roman dont nous allons parler, mais qui est moins bucolique et champêtre.
Mais qu'est-ce qui m'est arrivé entre temps?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, exactement.
Eh ben écoutez, j'ai grandi, j'ai vécu, la maison est restée la même, ce petit morceau de terre normande que j'aime. Et ce que je raconte dans mon dernier roman, dans Le Fils du Pêcheur, c'est mon hibernation dans cette maison d'enfance. Ouais. Et l'histoire d'amour interdite, passionnelle, folle, destructrice que j'y ai vécue. Alors oui, c'est la maison de l'enfance, et c'est la maison de l'enfance que cet amour-là est venu abîmer, détruire. C'est compliqué pour moi aussi de l'imaginer
oui,
comme ça.
Oui, j'imagine, mais ne brûlez pas les étapes, Sacha, parce qu'on va y revenir.
Absolument.
On va prendre le temps d'en parler de ce roman. En attendant l'arrivée de Charline la Picarde, nous sommes deux donc ici à aimer la Normandie, enfin trois même, avec Aurélien Esvent, notre rédacteur en chef, qui lui est Cabourgeais, c'est vraiment à la frontière. Qu'est-ce que cette Normandie a de particulier pour séduire des individus aussi différents les uns des autres?
Ah bah ça c'est ça a à voir avec la lumière, avec l'atmosphère, avec quelque chose de la couleur du ciel. Mais moi ma Normandie, mon cher Antoine, c'est celle des terres, c'est celle de la côte.
Ouais.
Moi j'aime le bocage, j'aime ce pays d'Auge, ces routes comme ça sinueuses, encerclées d'arbres qui semblent nous dévorer quand on conduit ou quand on marche dedans. C'est une région qui est belle et qui a une espèce de quelque chose d'aussi un peu inquiétant aussi. Mmh. Il y a quelque chose d'un peu... on a l'impression que quelqu'un vous regarde derrière un arbre, derrière un buisson.
Ce qui est souvent le cas.
Ce qui est souvent le cas en Normandie. Et puis aussi, j'aime ces espèces de balafres que les humains ont fait, ces zones industrielles, ces choses un peu absurdes comme ça, qu'on a mis au milieu de nulle part. Enfin, voilà, c'est une région qui est chère à mon cœur pour un millier de raisons.
Sacha Sperling, vous êtes écrivain, scénariste, vous avez 31 ans.
Oui.
C'est tout juste pour l'instant. Bon. Un carnet de balles déjà bien rempli. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous demande ce que vous faites dans la vie?
Alors, c'est compliqué, vous savez, quand on est à l'aéroport, quand on remplit le visa et qu'on doit mettre profession, c'est toujours embêtant. Alors, j'ai du mal à mettre écrivain, c'est encore un blocage que j'ai.
Ouais.
Maintenant, je mets auteur, c'est pas tellement différent, mais j'assume plus, parce qu'en plus, les scénarios, quand j'essaie de faire des chansons, quand j'essaie de faire des trucs, enfin... auteur, je suis auteur.
Auteur, c'est donc un auteur qu'on reçoit aujourd'hui, Sacha. Et quand je vous vois, je pense à Gainsbourg et au morceau « L'alcool ». C'est un morceau dans lequel vous avez puisé le titre de votre premier roman qui s'intitulait « Mes illusions donnent sur la cour ». C'est un morceau que je vous propose d'écouter tout de suite.
« Mes illusions donnent sur la cour, des horizons j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. » Mes illusions donnent sur la cour. J'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après mille peines et le corps harassé, j'ai le regard mort et les mains dégueulasses, de quoi inciter les belles à faire la grimace. Bien sûr, y a les filles de joie sur le retour, celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri, sinon qu'indifférence et mélancolie? Dans mes frusques couleurs de muraille, je joue les épouvantails. Mais nom de Dieu dans mon âme, brûlait pourtant cette flamme où s'éclairaient mes amours et mes brèves fiançailles, où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Aujourd'hui je fais mon chemin solitaire, toutes mes ambitions se sont fait la paire. Je me suis laissé envahir par les orties, par les ronces de cette chienne de vie. Mes illusions donnent sur la cour, mais dans les troquets du faubourg, j'ai des ardoises de rêverie et le sens de l'ironie. Je me laisse aller à la tendresse, j'oublie ma chambre au fond de la cour. Le train de banlieue au petit jour, et dans les vapeurs de l'alcool, je vois mes châteaux espagnols, mes haras et toutes mes duchesses. À moi les petites pépées, les poupées jolies, laissez venir à moi les petites souris. Je claque tout ce que je veux au baccarat, je tape sur le ventre des maharajas. À moi les boîtes de nuit sud-américaines, où l'on danse la tête vide et les mains pleines. À moi ces mignonnes au regard qui chavire, qu'il faut agiter avant de s'en servir. Dans mes pieds de poule, mes princes de Galles, en douce je me rince la dalle. Et nom de Dieu dans mon âme, v'là que je ressens cette flamme où s'éclairaient mes amours et mes brèves fiançailles, où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Et quand les troquets ont éteint leur néon, qu'il ne reste plus un abreuvoir à l'horizon, ainsi je me laisse bercer par le calvin, et le dieu des ivrognes guide mes pas.
Serge Gainsbourg, l'alcool. Tiens, il était question de calvaire et nous sommes en Normandie. Comme c'est bizarre, c'est un morceau qui a donné envie à notre invité Sacha Sperling d'appeler son premier roman « Mes illusions donnent sur la cour ». Alors Sacha, vos titres de livres viennent généralement de la pop culture. « Les cœurs en sky mauve », c'était extrait de
Gian.
37.2 le matin de Gian. « J'ai perdu tout ce que j'aimais », votre troisième roman vient de la chanson du même nom d'Alain Souchon. Mais d'où vient ce titre « Le fils du pêcheur » ? Il n'y aurait pas un petit lien avec « La cabane du pêcheur » de Cabrel ?
Vraiment.
Non, pas du tout. Il a l'air totalement outré. Non, aucun. Allez, coupez-moi ça, Gisela Fontanus. Merci. Non, aucun lien avec la chanson de Cabrel.
Et pourtant, j'aime beaucoup Francis Cabrel, mais aucun lien. Les titres, c'est toujours un peu une tannée quand même, parce qu'on écrit des milliers de mots, des milliers de phrases, et puis à un moment donné, on vous demande d'en trouver une qui viendrait, même pas résumer le livre, mais donner envie de le lire. Donc moi, j'ai toujours éprouvé un sentiment très, 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 très difficile à... C'est une étape du livre que j'aime pas tellement.
Mais alors pourquoi est-ce que les chansons sont-elles une telle source d'inspiration pour vous ?
Parce que j'aime beaucoup la musique, parce que j'aime beaucoup comme ça emprunter à d'autres des phrases que j'ai aimées. C'est toujours avec, par exemple, pour J'ai perdu tout ce que j'aimais, ça m'a donné l'occasion de demander l'autorisation à Souchon, dont je suis un admirateur éternel, de lui demander l'autorisation, de le rencontrer, de lui parler. Enfin, c'était de lui emprunter un bout de sa musique à lui, et pour un morceau de ma vie à moi. Gainsbourg, j'ai pas pu le faire, mais voilà, ça s'est toujours passé un peu comme ça. Et puis, Le fils du pêcheur, j'ai trouvé ce titre au tout début de l'écriture du roman, et j'en ai pas changé.
Votre premier roman, Mes illusions, donne sur la cour, que nous évoquions avec ce morceau de Gainsbourg, a été traduit dans 10 pays. En allemand, en néerlandais, en italien, en portugais, en vietnamien, en coréen, en tchèque, en chinois et en hongrois. Alors pour les rares auditeurs qui n'ont pas encore lu la version chinoise, voilà ce que ça donne. Alors j'ai traduit pour ceux qui sont un peu perdus. Je n'avais aucune idée de la mélancolie que pouvait m'inspirer un ciel d'été, si bleu soit-il. Le silence est trop lourd quand on attend quelqu'un, certain que cette personne ne viendra pas, ou pas vraiment. Oui, le chinois est une langue concise. Vous reconnaissez votre style ?
En chinois ?
Oui,
je reconnais entièrement mon style. Il a voyagé parfaitement en chinois et dans les autres langues.
Quelle est la langue d'ailleurs la plus flatteuse à vos oreilles dans laquelle on a traduit votre roman ?
Évidemment, c'est celle qui me manque. Je suis un enfant de la pop culture. J'aurais adoré être traduit en anglais. Ouais. Ça m'aurait beaucoup, beaucoup plu parce que c'est une langue que je parle un peu. Les autres, je les parle moins. Si je devais donner une vraie réponse, ça serait l'italien, parce que c'est une langue que j'aime aussi beaucoup. Et là, j'ai pu lire mon livre dans une autre langue. C'est la seule fois où j'ai pu le faire. Donc, c'était assez intéressant.
Sacha Sperling. Bon, plus sérieusement, être traduit, ça veut dire de nouveaux lecteurs, de lecteurs d'horizons, de cultures différentes. Qu'est-ce qu'il y a, à votre avis, Sacha, d'universel dans votre écriture ? Enfin, pour éviter les grands mots, capable de toucher des lecteurs aussi différents ?
Je pense que j'essaie humblement d'écrire quelque chose des choses qui sont intimes, qui sont très personnelles, et que j'ai l'espoir fou que ces choses intimes et personnelles le soient pour le plus de monde possible. J'essaie de penser à celui qui lit. Quand j'écris, évidemment, c'est moi, c'est à mon bureau, c'est un plaisir ou une douleur très encore une fois personnel, mais je pense au lecteur, je pense à ce point de contact qu'il est important pour moi de trouver. Donc peut-être que c'est ça qui a fait que ce livre-là a voyagé, en tout cas.
Alors revenons à votre texte en français, ce cinquième roman, Le fils du pêcheur, qui est édité chez Robert Laffont. Nous allons en parler dans un instant avec Charline Roux, qui n'a pêché que des canards en plastique dans ses fêtes foraines Picardes. Ce sera juste après Something Greater. C'est un nouveau morceau dévoilé ici en exclusivité par le groupe australien Parcels.
Oh, the two.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Car oui, voici Charline Roux. Et bravo Charline pour cette magnifique crinoline. Hommage, j'imagine, à un autre écrivain normand.
Proust.
Je vous présente Sacha, Charline.
Enchanté.
Charline, Sacha.
Bonjour.
Sacha qui a publié son premier et retentissant roman en 2009 quand il avait 19 ans. 5 romans plus tard, le voici donc avec Le Fils du Pêcheur. Quel genre de pêcheur, Charline ?
Eh bien écoutez, c'est l'histoire de deux amours qui se télescopent et se conjuguent à des temps différents. Celle avec Mona au passé, grand amour de Sacha avec qui il a passé 7 ans, et l'autre au présent avec Léo qui est justement le fils du pêcheur. Une rencontre impromptue que Sacha fait alors qu'il est dans une forme d'exil en Normandie. Deux histoires de même intensité mais pas avec la même durée. Pourquoi est-ce que Sacha, vous avez précisé dans que cette histoire avec Léo, racontée au présent, avait pourtant une date de péremption qui allait arriver 7 mois plus tard?
Parce que c'était une tragédie. Il y avait cette unité de lieu, cette unité de temps. Et puis il y avait un fatum, une espèce de côté, une fin inéluctable. Ça servait à rien de garder le suspense. C'est une relation en effet qui est forte, passionnelle. Et je ne dévoilais rien en dévoilant que c'était une histoire qui allait se finir. C'était même à mon avis plus fort de savoir que c'était pas un amour qui a été fait pour durer. Voilà.
Si je comprends bien, et sans être trivial, vous avez pécho le fils du pêcheur.
c'est absolument ça, Antoine. Et non, pas seulement, je crois qu'on s'est aimé un peu, je crois qu'on a essayé de se comprendre, qu'on n'a pas réussi, et que ça, c'est parti en vrille, mais ça a commencé par une histoire de pécho, ouais.
Un personnage qui a aimé et un personnage qui aime, en l'occurrence le même, c'est cette ambivalence-là que vous avez voulu éclairer alors d'une forme de romantisme sombre, je sais on n'est pas un oxymore près, hein. Le passé éclaire le présent et inversement.
Oui, c'était l'idée comme ça que dans une histoire d'amour qu'on vit, il y a souvent comme ça le germe de l'histoire d'amour qu'on va vivre après, et puis vice versa dans l'histoire d'amour qu'on vit, il reste les cendres de celle d'avant, et que les deux permettent de comprendre un personnage quand on écrit un roman, en l'occurrence. Le personnage de Sacha, il se comprend à l'aune de ces deux histoires d'amour qui sont différentes, qui ont des points de similitude. Il se trouve que c'est un homme et une femme, il se trouve que c'est peut-être pas commun, peut-être un peu plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais c'était, oui, l'idée de faire une relation, deux relations comme ça, en miroir, qui se répondent.
Et comment le passé pourrait-il ne pas éclairer le présent, alors que vous êtes installé, on en a déjà parlé tout à l'heure, dans ce petit presbytère normand, la demeure maternelle précédemment, mais aussi occupée encore avant par le couple Birkin-Gainsbourg. C'est presque un musée, cette maison.
Oui,
c'est un musée qu'on a envie de.
C'est un musée dans lequel on vit, dans lequel on se, dans lequel j'ai vécu, dans lequel j'ai en effet. C'était la maison de Jane. C'est là, c'est Jane Birkin qui l'a acheté avec le cachet de la moutarde de Montonnet et qui l'a vendue à ma mère. Donc c'est une maison d'abord qui est très féminine, c'est une maison de femme.
Très anglaise.
Et très anglaise, comme une bonbonnière, comme ça, un peu à la limite de Shining quand même. Elle peut être un peu effrayante, cette maison.
Surtout qu'il y a un petit cimetière.
Et surtout qu'il y a un petit cimetière, qu'on retrouve des tombes souvent.
Des enfants.
Voilà, et on retrouve des tombes
dans
le jardin. On en a retrouvé quelques-unes, de la veuve Hirondelle, par exemple. Et c'est vrai que c'est un endroit où cette histoire d'amour interdite, inattendue avec le jeune homme d'à côté, va répondre avec les amours passés, ceux de ma mère, ceux de Gainsbourg et Birkin. Enfin, c'est un drôle d'endroit pour une histoire d'amour, mais c'est là que ça s'est passé.
Ce Sacha, qui se livre sans concession ni embellir sa situation, c'est votre double littéraire, et ce depuis votre premier roman. Un garçon qui, déjà, je cite, ne se sentait pas adapté au monde qui l'entoure, est-il le même quelques années plus tard? Ceci est une tentative hasardeuse de détourner le « ce Sacha, c'est vous ?»
On va y venir de toute façon.
Ce Sacha, c'est un autre moi. Voilà, je vais faire une réponse Et parfois, il ne faut pas essayer d'être plus intelligent qu'on
mais
l'est.
Mais il fait écho à celui du premier roman.
C'est toujours le même.
C'est le même.
C'est le même Sacha. Mmh. Oui, oui. C'est un Sacha. Ce Sacha, c'est un personnage qui me permet d'être plus moi que moi. C'est ça qui est étonnant.
C'est étonnant, cette situation.
Absolument. Mmh. C'est un personnage, un masque que je mets pour arriver à dire des choses que je ne dirais pas dans la vie, m'adresser à des gens à qui je ne m'adresserais pas quand je parle à mes parents, quand je parle aux gens que j'ai aimés. Ce Sacha-là, c'est un véhicule, c'est un masque qui me permet d'être encore plus honnête que ce que je ne suis dans la vie.
Ce Sacha, c'est pécho, mais ce Sacha, est-il chassé?
Pas mal.
Oui, non.
Mais ceci étant, ce Sacha de fiction donne l'impression qu'il va gratter peut-être plus fort sur les plaies.
Oui, c'est. Écoutez, moi, j'écris à un moment donné dans le livre, je dis la sincérité en littérature, ça n'a aucune valeur. Ça n'a pas, c'est pas une gageure d'être sincère, ça n'apporte rien. Enfin, on peut écrire un truc très sincère qui est nul. Mais c'est pas pour autant que d'être sincère, c'est pas quelque chose qui peut aider quand on écrit, qui peut faire aller dans des endroits très intimes, très impudiques, et qu'on peut après écrire de la littérature avec, à l'aide de cette sincérité, en grattant les plaies. Et oui, Sacha, dans la vie et dans les romans, a un plaisir maso à gratter ses plaies très fort.
Sacha Sperling, est-ce que ce n'est pas pratique, au fond, d'avoir un double littéraire à qui on peut faire mener une vie parallèle? Le côté, c'est pas moi, c'est Sacha. Sauf que, généralement, on lui donne un autre nom. Tiens, Douanel chez Truffaut, par exemple. Là, c'est pour le plaisir aussi de brouiller encore plus les pistes.
Oui, honnêtement, oui. Et puis aussi parce que c'est pour le plaisir et pour le coup, c'est une affaire aussi d'honnêteté. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment voulu faire le côté non, c'est pas moi, c'est un roman. C'est moi, c'est moi, je dis, c'est
en
un
partie.
Moi plus que moi. Je vais encore plus loin, je dis, il est encore plus moi que moi. Donc, je me cache pas, c'est mon nom d'auteur, c'est mon nom de personnage. Et moi, personnellement, j'aime lire des romans, j'aime lire plein de sortes de romans, mais j'aime lire des romans où j'ai l'impression que l'auteur est le personnage. Moi, ça me plaît beaucoup, ça me donne c'est une gageure que j'aime. Alors, j'aime proposer ça.
On s'arrête quand même juste une demi-seconde sur ce nom d'emprunt. Qu'est-ce qui se cache derrière? D'où vient Sacha Sperling? Où va-t-il? Est-ce qu'il change à Châtelet, par exemple?
Non.
Beaucoup trop de couloirs à Châtelet, Antoine. Bon.
Dites-moi, d'où ça vient, Sacha?
D'où vient ce nom Sperling? Ça veut dire moineau en allemand. J'avais un nom de famille et des parents qui portaient des noms un petit peu connu. Donc à 19 ans, je me suis dit que j'ai pas été très futé parce qu'on a très vite découvert la supercherie et très vite découvert qui étaient mes parents. Mais j'ai voulu me grimer, j'ai voulu trouver un nom de plume, comme on dit. Et c'est le nom de jeune fille de ma marraine. C'est un nom qui m'a plu, qui était un peu, qui sonnait un peu toc, qui sonnait un peu pop. Et je l'ai choisi comme je l'ai un jour écrit entre deux gorgées de jus d'orange, sans me rendre compte que ça allait être mon nom pour le reste de ma vie. Mais ça, ça va. J'ai plutôt bien choisi.
Sperling, le petit moineau, donc. Normalement, on est d'accord. Le fils du pêcheur. On va continuer.
Vous
à en parler.
Vous retentez les accents.
Non, j'arrête les accents. On va continuer à en parler dans quelques instants. C'est signé Sacha Sperling et c'est édité chez Robert Laffont. Pop break pour l'instant, il est 16h30 dans Pop, c'est l'heure des pop news.
Attention à vous, auteurs et autrices qui nous écoutez, la concurrence arrive et la concurrence c'est elle. Britney Spears, libérée de la tutelle de son père, a décidé de mener moult projets dans l'écriture d'un roman. Et ce roman, c'est un polar dont Miss Spears a fait un résumé sur Instagram. Et là, j'ouvre les guillemets. J'écris un livre sur une fille qui a été assassinée, mais son fantôme est coincé dans les limbes à cause d'un traumatisme et de la douleur. Elle savait pas comment traverser le monde qu'elle connaissait auparavant. Après avoir été coincée dans les limbes pendant 3 ans, elle est devenue un fantôme qui se nourrit de son reflet dans un miroir pour exister. Voilà, donc évidemment, aucun lien avec tout ce qui vient de lui arriver. Pour l'instant, pas de date de sortie annoncée, mais...
It's Britney, bitch.
Elles sont 5, elles sont les meilleures agents secrets de leur pays et elles répondent au nom de code 355.
We're the top agents from around the world. American, British, German, Colombian, Chinese. But now we have a common enemy. They can start World War III. From simple reach of their keyboard. So we need to join forces.
et ses 5 membres des services secrets de nationalités différentes qui vont devoir s'allier pour lutter contre une organisation secrète et dangereuse dont Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Diad Kruger et Fan Bingbing. Le film s'appelle donc 355, 355 de Simon Kinberg et il sortira le 19 janvier dans les salles.
Et un documentaire à ne pas rater puisqu'il est signé Loïc Prigent, docteur Esmod, cher à notre cœur. Et comme c'est lui qui en parle le mieux, c'est lui qui pose les enjeux.
Depuis sa fondation par un Normand en 1947, Dior dicte les tendances chaque saison. La maison Dior est aujourd'hui l'une des plus importantes marques de mode et de luxe françaises. Maria Grazia Chiuri arrive à la tête de Dior en 2016. Elle est la première femme à ce poste et pour sa première collection ce jour-là, la salle se lève. Tout comme lorsqu'après le défilé inaugural de Christian Dior en 1947, on avait crié au New Look et salué le renouveau de la mode.
Et c'est elle que Loïc Prigent a suivi, puisque le titre de ce documentaire, c'est « Une femme à la tête de Dior ». Des mois à suivre Maria Grazia Chiuri et ses équipes dans la confection de la collection Croisière, dont le défilé s'est déroulé au stade panathéique d'Athènes en mai 2021. C'est passionnant, c'est à suivre ce vendredi 15 octobre sur France 5 à 22h25.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Man, it's me, bitch.
Britney ?
Mais oui, bien sûr.
Enfin, voilà, elle a changé beaucoup de choses.
Voilà. Non, elle n'a pas changé grand-chose. Non, non,
belle imitation.
Moi, je suis pour le roman, le thriller de Britney Spears, mais mon
Dieu.
Mais
moi, ça me passionne, hein,
vraiment. Mais je le veux tout de suite.
Nous avons déjà un lecteur en la personne de Sacha Sperling, notre invité aujourd'hui qui vient nous parler du Fils du pêcheur, édité chez Robert Laffont.
Entre Histoire de petite fille, votre précédent roman et celui-ci, 5 ans se sont écoulés, le temps de vivre, dites-vous, pour avoir précisément quelque chose d'intime à livrer et mieux retrouver Sacha, votre personnage de fiction. Est-ce que les retrouvailles ont été faciles, naturelles ou un peu étranges, comme quand on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps ?
Facile, naturel et assez salvatrice. Il m'avait manqué, j'allais dire, je m'étais manqué. Ouais. Mais il m'avait manqué ce personnage. Et puis surtout, il s'était passé. C'est un roman. Je triche pas. C'est un roman où beaucoup de choses sont vraies. C'est des histoires d'amour que j'ai vécues. C'est des choses qui me sont arrivées. Et donc, à chaque fois que j'ai envie de raconter quelque chose qui m'arrive, je fais appel à ce double littéraire, à ce Sacha. Et là, c'était très nécessaire. C'était plus nécessaire que les autres fois. J'avais vraiment besoin de dire. J'avais vraiment besoin c'était une forme de catharsis. C'était une forme d'expiation. Mais c'était agréable. J'étais content de le retrouver, de me remettre dans ces baskets-là.
Oui, mais on parle de littérature ici. On parle pas d'un témoignage.
Non, pas du tout.
D'accord. Parce que c'est quand même la condition sine qua non pour vous. C'est-à-dire qu'on ne pouvez vous mettre devant votre machine à écrire que s'il y a une machine à écrire.
Oui. votre papyrus.
Qu'à la condition, Sacha, que vous ayez vraiment quelque chose à raconter, qu'il y ait une nécessité impérieuse.
Oui, ça c'est le cas de beaucoup d'auteurs. Enfin, j'espère, j'imagine.
Pas toujours.
Bon c'est dommage.
Non mais.
Évidemment que c'est un sacerdoce d'écrire quand même. On met beaucoup de qu'on écrive d'ailleurs sur soi ou pas. Mm-hmm. On met beaucoup d'énergie, on met beaucoup d'émotions, on met beaucoup de soi justement dans quand on écrit et ça me semble essentiel de cette urgence, cette nécessité à dire, cette nécessité à raconter. En tout cas, en ce qui me concerne, elle est condition sine qua non.
Sacha Sperling, à quel moment sentez-vous que le livre est prêt à venir? Est-ce qu'il y a des signes de la nervosité, de l'impatience, un besoin de solitude, une humeur fantasque qui s'empare de vous?
Ça vient petit à petit, on accumule des indices, on se rend compte qu'on obsède, on lit quelque chose, on écoute un album, on va voir une expo, on retient, et puis tout d'un coup, on sent monter en nous quelque chose qui devient de plus en plus évident. Et après, moi, je dis toujours, quand on a 30 pages, c'est que on va faire ce livre-là. Ouais. C'est 30 pages, c'est le cap pour moi. C'est quand il y a 30 pages, ça veut dire que il y en aura plus et que le livre va se terminer. Mais je crois que c'est un travail intérieur. Il y a un peu un mystère là-dedans. Il y a un petit bonhomme à l'intérieur du cerveau qui travaille pour vous, qui réfléchit un peu pour vous, qui comme ça capte des choses.
Il s'appelle pas Sacha, par exemple.
Il s'appelle aussi Sacha. Sacha, comme ça, c'est plus simple.
Vous êtes combien là-dedans ?
On est beaucoup. Mais en tout cas, lui, il m'aide bien parce que je pense que c'est lui qui, comme ça, accumule les choses, les sensations, les pensées, les expériences. Ouais. Et puis un jour, un peu d'un coup, un peu du jour au lendemain, ça devient une évidence.
ça s'impose. Mmh.
Le verbe de Sacha dans le roman ressemble quand même beaucoup à celui que vous empruntez pour répondre à ces questions. Est-ce que c'est d'abord par son style que vous le retrouvez, par sa manière de parler, sa manière de...
C'est un écueil de dire qu'on parle comme on écrit. Souvent, on parle comme on écrit.
C'est pas le cas de tout le monde, encore une fois, pour revenir à ce que disait Antoine. Il y a quand même quelque chose
de très... Il y a beaucoup de travail entre les deux.
Ouais. Je me reprends. Je parle comme j'écris. et peut-être que si je savais mieux écrire que je ne parle, j'écrirais mieux, ou vice-versa. Mais je n'essaie pas de... Le style, c'est important. Mais moi, j'aime les livres où on ne voit pas l'effort. Je trouve que c'est important quand on écrit. Je trouve que c'est agréable de lire quelque chose. Et ça peut être justement... il peut y avoir eu beaucoup d'efforts faits, mais que ça ne se voit pas. Comme un tableau où on ne verrait pas les coups de pinceau. J'essaie de faire comme si c'était facile. C'est ça le but du jeu quand j'écris un roman.
Alors même si ce Sacha n'est pas complètement vous, raconter ses douleurs, vous le disiez, c'est une forme d'exorcisme. Comment est-ce que vous êtes senti une fois l'écriture terminée ?
Dans un état un peu particulier, parce que là, je revenais sur beaucoup de choses qui avaient été très très dures. Vous racontiez très bien ces deux histoires d'amour, notamment celle avec Mona, qui est une histoire longue, qui a été une histoire terrible, marquée par la mort, marquée par la difficulté de faire un enfant, par la violence, Ça, c'était pendant l'écriture, c'était dur. Et puis, faut savoir, quand on écrit un livre, on l'écrit, et puis on le relit, et puis on le relit, et puis on nous le fait relire, et puis on le corrige. Donc, au bout d'un moment, on parlait de gratter les plaies. C'est vrai que c'était douloureux. C'est vrai que ça devenait un tout petit peu comme ravaler quelque chose qu'on a régurgité et qu'on se dirait, bon, alors quel goût ça ? Est-ce que vraiment, cette phrase-là, elle va bien avec ça ? Donc, c'était dit. Mais en même temps... C'est un roman d'amour et c'était important pour moi de même si ces deux amours passés, si ces deux amours qui sont qui n'ont pas marché, c'était important de raconter peut-être même pour ces deux personnes cette histoire. Donc il y avait un sentiment quand même de libération à la fin.
Mais une fois de plus, on parle ici de littérature, Sacha Sperling, parce que ce qui emporte le morceau, si je puis dire, c'est cette écriture à la fois tendue, désinvolte, mais qui agrippe le lecteur comme le ferait un hameçon. C'est pour ça que l'image du pêcheur, si je peux me permettre cette métaphore, est plus que bienvenue. Vous remontez du fond des choses à la surface.
C'est normal, j'ai du mal à dire. Je suis très content que vous ayez aimé le style, c'est évidemment important. J'ai essayé de le définir. En anglais, on dirait effortless, on dirait essayer de faire que ce soit sans effort, que ça ait l'air facile, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour celui-là. Si je veux rester simple et dire la vérité, j'ai beaucoup travaillé au style de celui-là. J'ai vraiment voulu qu'il se lise bien, qu'il se lise facilement et essayer le plus possible, plus que sur les autres, plus qu'à chaque fois, de faire de la littérature, de la vraie. J'essaye, c'est bon.
Et au-delà du style, le roman est extrêmement bien construit, riche en péripéties, mais aussi en personnages et choses assez rares. Aucun n'est accessoire, quel que soit leur degré d'implication aux événements. Tous ont de vrais contours et une raison d'être. Alors, véritable don d'observation ou de construction, elle s'est établie comment, cette galaxie du roman ?
Elle s'est établie à partir du moment où j'ai d'abord choisi cette campagne, cette maison et la galaxie réelle qui existe autour, la voisine, le pêcheur d'en face, son fils. Enfin, cette galerie de personnages, elle était là. Et puis après, c'était comme dans ces romans un peu... parce qu'il y a une touche comme ça, ces romans 19e, un peu comme ça, avec des portraits. Je vais surtout pas citer d'auteurs illustres. Normand, par exemple. Je ne pense à personne en particulier. Mais c'est vrai que j'avais cette envie-là, ce que j'avais pas beaucoup fait dans mes romans précédents, de faire des non pas des portraits, mais en tout cas d'avoir une galerie de personnages, comme vous dites, qui en effet viennent éclairer les personnages, viennent éclairer la relation, viennent éclairer le livre même. Et ça s'est fait de manière assez... ça, c'était très plaisant à faire, parce que c'est pas un exercice que j'avais beaucoup fait avant. Et j'ai adoré faire ça. Voilà.
Et qui est la première personne à qui vous avez fait lire le roman ? Si c'est pas indiscret.
Enfin, ma mère.
Charline. Mais enfin.
Non, voilà, c'était juste.
Mais enfin, mais quelle question.
Évidemment.
Bon, je suis désolé aujourd'hui. Bon, Sacha Sperling, le fils du pêcheur, c'est édité chez Robert Laffont et c'est un roman qui nous a tapé dans l'œil, vous l'aurez compris, à Pop Pop Pop. Dites-moi, Sacha Sperling, dans la suite de Pop Pop Pop, si mes informations sont bonnes, nous allons parler de ça.
Ma said she saw a ghost. sister, sister, oh so fair. Why is there blood all over your hair?
Des White Stripes, de la série Sharp Object, du film Qu'est-il arrivé à Baby Jane et de la robe de Marilyn Monroe. Ce sera juste après Tomber pour la scène. C'est un morceau de L'Impératrice, extrait de leur dernier album. Tomber pour la scène, L'Impératrice, cet extrait de l'album Taco Tsubo. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Fameuse Happy Birthday de Marilyn Monroe adressée à John Fitzgerald Kennedy, c'est ce son qui vous évoque la pop culture, Sacha Sperling.
Bah oui, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus pop que la plus pop des pop icônes, qui est comme une flamme vacillante dans le noir et blanc du Madison Square Garden, ivre avec sa robe collée sur elle, vient chanter son amour sans en dire rien au président des États-Unis quelques mois avant de mourir. Pour moi, c'est un moment pop. Si ça, c'est pas un moment pop, Antoine, je sais pas s'il vous faut.
Ça n'existe pas si ce n'est pas ça. Bon, c'est avec la même robe que de Marilyn que je vous annonce qu'il est très précisément 16h45.
C'est serré quand même, pensez à respirer.
À la taille, oui. C'est l'heure de votre pop list, Sacha. C'est dégrafé, c'est mieux. Un livre, un film, une musique et une série. Voilà ce que vous allez nous conseiller, Sacha. Commençons par le livre. Ce livre, c'est Mon année de repos et de détente, qui n'est, contrairement aux apparences, pas le prochain livre de Nicolas Sarkozy, mais celui de l'auteure américaine Otessa Mosf. J'arrive jamais à le dire, ça.
Moshfeg.
Moshfeg, très bien. Chardine, racontez-nous de quoi ça parle.
L'héroïne de ce livre est jeune, belle, riche, fraîchement diplômée de l'Université de Columbia et c'est maintenant qu'on arrête de prononcer l'expression « tout pour être heureuse » car elle décide de tout plaquer pour entamer une longue hibernation en s'assommant de somnifères.
Alors Sacha, avant d'en parler, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Oui, je vous en lis quelques lignes.
En année de repos et de détente.
Alors, c'est au cours de cette pause dans le théâtre du sommeil que j'ai accédé à une réalité plus étrange, moins certaine. Les journées s'enfuyaient, laissant très peu de souvenirs, uniquement le creux familier dans les coussins du canapé, comme une sorte de paysage lunaire. Mais c'était tout, et j'aurais très bien pu avoir rêvé. Rien ne semblait vraiment réel, le sommeil, la veille, tout s'enfondait en un voyage aérien, gris, monotone. Je ne parlais plus toute seule dans ma tête, il n'y avait plus grand-chose à dire. C'est ainsi que j'ai compris que le sommeil avait un effet. Je devenais de moins en moins attaché à la vie. Si je continuais comme ça, me disais-je, je finirais par disparaître complètement, puis je réapparaîtrais sous une forme nouvelle. C'était mon espoir, c'était mon rêve.
Extrait de mon année de repos et de détente, le choix de notre invité Sacha Sperling, et c'est une auteure américaine, Otessa Moshfeg. Alors oui. Racontez-nous, pourquoi vous aimez tellement ce livre?
Parce
qu'est-ce qui vous touche là-dedans?
On m'a demandé un livre que j'avais aimé récemment. Ouais. Et j'ai découvert ce livre-là que j'ai trouvé complètement audacieux, fou. Enfin, il m'a beaucoup étonné. C'est une sorte de Oblomov moderne. C'est une nana comme ça qui, à la suite de choses douloureuses, elle a perdu ses parents, elle est un peu paumée, décide d'entreprendre le projet fou de se mettre à dormir une année. Elle veut pas se suicider, elle veut pas se défoncer, elle veut dormir. Alors, c'est un roman qui est à la fois très drôle, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, très cruel, et complètement étonnant dans le style, dans la forme. Il y a quelque chose de que j'ai retrouvé de Bret Easton Ellis, que j'aime beaucoup, de ces auteurs américains, et c'est, le parcours, elle est somnambule, elle va s'acheter des trucs au milieu de la journée, de la nuit, elle sait plus où elle passe des coups de fil à n'importe qui, elle mange des crèmes glacées qu'elle retrouve. C'est une espèce de personnage complètement en bordel et qui nous raconte son année de repos et de relaxation qui est une hibernation moderne. Enfin, ça m'a fait vachement rire, moi.
Eh ben, très bien, c'est très tentant ce que vous en racontez. Voilà pour le livre. Pour le film, votre film du moment, c'est un film de 1962 qui a pour titre « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» de Robert Aldrich. Qu'est-il arrivé à Baby Jane, Charline?
Au temps du cinéma muet, Baby Jane, c'est une grande star. Sa sœur Blanche, elle, reste dans l'ombre. Et dans les années 30, les rôles sont inversés. Blanche est une grande vedette, Jane est oubliée. Bien des années plus tard, Blanche, victime d'un accident, est infirme et sa sœur se mue en infirmière sadique qui multiplie les mauvais traitements.
Sister, sister, oh so fair. Why is there blood all over your hair?
Whatever happened to Baby Jane? To seek the answer to that question, we will follow a man plotting a murder. Highly specialized work. But Robert Aldrich has considerable experience in such matters. His stars are Betty Davis and Joan Crawford.
Les frissons. Sacha, pas facile d'avoir un frère ou une sœur dans la lumière. Rien de personnel, bien entendu, rassurez-moi.
Ah non, mais non. Alors si c'est le cas, je vais être Bette Davis alors. Non, rien à voir avec ça. C'est un film que j'adore, que j'aime revoir et revoir et revoir. Un film, à l'inverse de ce qui est dit dans la bande-annonce, il parle de sang. C'est un film d'horreur sans qu'il y ait besoin ni de sang ni de couteau. C'est un film qui parle de cinéma, d'ego, d'acteurs, d'actrices. C'est Betty Davis grimée en petite fille qui rêve c'est terrifiant, c'est quelque part un peu bouffon, je crois que ce qui est émouvant dans le film aussi, c'est que au moment où elles acceptent de tourner ce film de la dernière chance, et Joan Crawford et Betty Davis sont un peu dans l'état de leur propre personnage, c'est-à-dire qu'elles sont des actrices moins désirées, un peu passées, et donc il y a quelque chose d'une juxtaposition très très forte qui se passe quand on regarde le film. Parce qu'on regarde les deux actrices qui en plus se sont détestées sur le tournage, il y a toute une légende autour de ça, donc c'est un film qui est intéressant et marrant et effrayant à bien des points.
Tiens, comme entre le Sacha qui écrit et le Sacha du réel
Non,
pas du tout. Bon, faisons un bond dans le temps entre 1962 et 2018, car pour la série Sacha Sperling, vous avez choisi Sharp Object ou Sur ma peau au Québec. C'est une mini-série télé américaine basée sur le roman Sur ma peau de Gillian Flynn. Charline, qui dit mini-série, dit mini-pitch. Nous sommes toutes oui.
Camille Pricker est journaliste. Elle sort tout juste d'un bref séjour en HP. Elle retourne dans la ville de son enfance pour tenter de résoudre le meurtre de deux jeunes adolescentes avec qui elle se trouve bien des points communs.
Ma said she saw a ghost. I'm not scared of them ghosts. Are you?
We need to talk about your daughters. One of them is dangerous. The other one's in danger.
It's not safe for you here.
Ça n'a pas l'air rassurant du tout, cette
décidément.
Histoire.
Décidément. Oui, j'ai choisi des trucs super glauques, la bise de la bouche, je me rends compte.
Alors attendez, parce qu'on parle du livre de Gillian Flynn, c'est le livre qui vous a donné envie de regarder la série ou...
Non, l'inverse. Et j'ai découvert l'immense Gillian Flynn, qui est une de mes auteurs préférées. Vraiment, conseille de regarder les adaptations, de lire les livres. Parce
Gone
que
Girl.
Gone Girl, tout. C'est vraiment très, 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 très haut de volée. Mais Sharp Object, la série, si vous l'avez pas vue, moi, ça a été un choc. C'est Jean-Marc Vallée, c'est le réalisateur de Big Little Lies, évidemment. Mais Sharp Object, c'est un espèce de, pour le coup, d'objet un peu effrayant, d'une beauté extraordinaire. C'est Amy Adams, incroyable. C'est joué, c'est costume. C'est vraiment, je peux pas. On est toujours con quand on parle d'une série parce qu'on est trop enthousiaste, parce qu'on aime trop les séries.
On n'est jamais trop enthousiaste.
Voilà. Bah alors vraiment, je vous dis, il faut voir Sharp Object parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien.
Notamment pour la mère de Camille, Patricia Clarkson, qui est une comédienne incroyable.
Incroyable. Vraiment.
Merci pour ces précisions. Docteur Roux, terminons cette pop list avec votre morceau, Sacha Sperling. Votre morceau du moment, c'est cette chanson Jolene, mais dans la version des White Stripes. Alors pourquoi la version des White Stripes plutôt que l'original de Dolly Parton ou la récente version de Lil Nas X?
Parce que j'ai découvert cette chanson par cette version il y a bien des années déjà. C'est comme ça que moi je connaissais pas Dolly Parton au moment où j'ai découvert ça et je me suis dit waouh, quelle mélodie, quelle chanson incroyable. Et cette version, je l'ai un peu oubliée et j'écris en écoutant de la musique. Et pendant que j'écrivais Le Fils du Pêcheur, cette chanson est revenue dans ma vie et je l'ai redécouverte avec une joie immense.
Et ben voyons tout de suite ce que ça donne White Stripes Jolene. Sperling, la version des White Stripes dans Pop Pop Pop. C'était le choix de Sacha Sperling, notre invité aujourd'hui. Mon cher Sacha, merci.
Merci à vous, merci
cette
beaucoup.
Petite heure en notre compagnie pour parler de, du Fils du Pêcheur, édité chez Robert Laffont et qui, vous l'aurez compris, est très recommandé par Pop Pop Pop. Merci Charline.
Oui, merci à vous deux.
Hein? Oh, mais Ghislain Fontanus me dit dans l'oreillette, enfin le casque, parce que nous avons des casques, il me dit, mais ça va, tu as encore quelques secondes, c'est bien cela? Eh bien, alors, est-ce que vous avez un mot pour la fin, Sacha?
Oh, c'est dur,
c'est pas horrible, ça. Est-ce que, si je vous réinvite dans les prochaines années pour votre...
Jamais, je ne reviendrai jamais.
Vous ne reviendrez jamais, jamais. Ben, voilà.
Cette émission est une honte, horrible. Plus jamais, c'est
plus
fini.
Plus jamais, je reviens.
Est-ce que vous êtes content de votre passage?
Non, c'était horrible.
Non, alors du coup, je vais en profiter pour donner le conseil que je donnais tout à l'heure à Sacha hors antenne. Allez au théâtre de la Porte Saint-Martin pour voir qu'est-il arrivé à Bette Davis et John Crawford, qui sont joués par Michel Faux et Amanda Lear.
Merci, voilà. Charline Roux. Bon. À demain, hein, je vous retrouve demain, vous. Et
oui,
merci
sûrement,
à toute l'équipe de Pop 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 et à Grégory Wallon qui était à la technique aujourd'hui. Demain, dans Pop Pop Pop, encore de la littérature avec l'auteur Paula Hawkins et une série avec les comédiens Carmen Kassovitz et Théo Fernandez.
Stoke
s'appelle la série. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.